Émile Bergerat, La Zoche, peintre d'idéaux. Parmi les membres honoraires de cette fameuse société des places aux jeunes, qui a tenu en échec pendant 7 ans et bouleversé du haut en bas la paisible bourgeoisie des ternes, il y avait un peintre nommé La Zoche, qui était un bien drôle de corps. La Zoche avait été découvert par Saint-Onge, l'un des 7 titulaires, et présenté par lui à la société comme un bonhomme très fort, et n'ayant pas son pareil pour l'article Venise, article alors fabuleusement demandé par les débitants de peinture. Les Venises de la Zoche lui étaient prises sans marchander, quoiqu'il ne mût pas plus d'une heure à les exécuter. Et cela, disait Saint-Onge, à cause de leur couleur locale, à tromper les pigeons de Saint-Marc. La Zoche, d'ailleurs, ne vivait que de cette production exclusivement. Inutile de dire qu'il n'avait pas mis les pieds dans la ville des Doges. Cela se voyait du premier coup d'œil, et il ne cherchait pas à duper le monde. La première fois que la Zoche était allée offrir une de ses toiles à un marchand, voici, sur son récit même, comment la chose s'était passée. J'entre au hasard et je dis oh, « C'est une vue du Grand Canal, combien allez-vous m'en donner ?» Le marchand la regarde et me répond, comme je le dis, « Avec votre signature, rien, mais sans la signature, 30 francs. » Moi, je demeure stupide. Quelques jours après, je renouvelle l'expérience avec un autre qui me dit exactement le même langage. J'ai renoncé à comprendre, voilà tout. Et le brave garçon ajoutait avec mélancolie, peut-être ce nom de La Zoche est-il composé de syllabes fâcheuses, ou a-t-il été déjà compromis par un barbouilleur précédent. Cette veine trouvée, La Zoche a suivi, sans se torturer l'imagination, pour varier son sempiternel Grand Canal. Si un jour il avait placé dans sa toile le palais des Doges à gauche et la gondole à droite, le lendemain il flanquait la gondole à gauche et à droite le palais des Doges, implacablement reflété dans les mêmes eaux et baigné sans émission par le même ciel de cobalt pur, dit ciel italien. Et quand Saint-Onge le taquinait sur ces ciels d'azur exaspérants, « Que veux-tu ? » lui répondait le bon La Zoche. « Je sais pas faire les ciels orageux, j'en ai pas dans l'âme. » Saint-Onge lui apporta un jour une photographie de Venise, dans laquelle le susdit palais ducal était vu de face. L'étonnement de La Zoche fut profond. Pendant une semaine, il resta tout troublé, n'osant pas se risquer et représenter le palais autrement que de profil, et craignant d'y perdre son pain. « Mais il n'en aurait que 15 francs !» fit-il en rendant la photographie à Saint-Onge. Au bout de 2 ans de ce métier, à 2 Venises par semaine, La Zoche fut pris d'un vertige. Il se crut du talent et voulut exposer. Il avait besoin de lire enfin sa signature sur une toile au salon. Autant valait pour lui se jeter à l'eau tout de suite. Les marchands le lui firent amèrement comprendre. « Mais enfin, leur disait-il, qu'est-ce que ça vous fait que je l'expose ? Et si vous alliez être reçu ? Répliquaient les autres. « Eh bien, justement, alors on verrait donc au salon des Venises signé La Zoche, mais vous n'y pensez pas. Mais alors, malheureux que vous êtes, qu'est-ce qui prouverait désormais que toutes les Venises sont deuxièmes ?»« Je ne comprends pas. »« Ah, vous ne comprenez pas, eh bien, sachez, monsieur, qu'il est urgent pour l'écoulement de vos produits dans l'intérêt de notre industrie. » Que toutes les Venises que l'on fait, et surtout les vôtres, soient éternellement de Ziem. Comprenez-vous maintenant ? Oui, philosophe, trop bien et trop tard. Oh, je faisais là un joli métier, miséricorde. Et il sortit en enfonçant son chapeau avec un tremblement. De ce jour, il renonça aux Venises anonymes. Pour apprécier l'héroïsme du sacrifice, il faut savoir que la Zoche n'avait pas non seulement d'autres ressources, mais d'autres talents, et que le pauvre garçon était marié. Cette atroce fabrication lui avait faussé l'œil et la main, au point qu'il n'était pas bien sûr lui-même de pouvoir copier proprement un pot, une carotte ou un bâton de chaise. Le peu qu'il y avait en lui d'artiste s'était noyé dans l'indigo du Grand Canal et le vermillon du Palais des Doges. Il s'en plaignait tristement, ce farceur de Saintonge, le jour même de sa mésaventure au dîner mensuel de la société. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais mon cher, on a attribué pendant 100 ans, et on attribue encore, à dire d'experts, tous les tableaux de Guardi au Canaletti. Qu'est-ce que ça te fait d'être pris onzième? Je te le demande un peu. Mais 16e, comprends pour moi, ça je ne veux pas. Eh bien pourquoi alors ne tenterais-tu pas de l'orientalisme? Lui, tu ne feras du tort à personne et les chameaux sont à tout le monde. Mais je ne sais pas faire les chameaux. J'ai pourtant vu de toi des gondoles. Tu t'exagères les différences, les chameaux, les gondoles, mais tiens, à peu près la même forme. Et Saintonge, avec un bout de crayon, essayait de démontrer sur le mur cette absurdité désolée. Nous avons dit que la Zoche était mariée. Sa femme et lui formaient bien le ménage le plus extravagant de toute la bohème ternoise. L'atelier leur servait à la fois de salon, de salle à manger, de cabinet de toilette, de cuisine et de toute salle imaginable. C'était un labyrinthe dont la Zoche seule connaissait les détours, inextricables pour tout autre. À 11 h, la Zoche donnait un tour de clé à l'atelier et s'en allait chercher le déjeuner, invariablement composé de 2 petits pains, d'un litre de vin, d'une tranche de galantine truffée, d'un cornet de crevettes et d'un morceau de brie que l'on mangeait sur le coin de la table, au milieu des tubes de couleur, dans les papiers mêmes qui les avaient enveloppés. Cela évite de laver les assiettes. Et comme disait Madame Laroche, l'aria de se mettre en cuisine. Le reste du café de la veille, réchauffé sur le poêle, complétait le repas. Repas de paresseux s'il en fut. Dans la journée, la Zoche confectionnait ses Venises et Madame la Zoche s'habillait. Cela durait jusqu'à 5 h. Lasse, molle et traînante, elle allait d'un coin à l'autre en bâillant, s'allongeant ici sur le canapé, oisive, puis s'accoudant à la fenêtre et regardant dans la rue sans voir, une heure entière. Enfin, elle s'asseyait devant le miroir et commençait à se démêler lentement, coiffait son point de petit bonnet, jouait avec le chat, perdait le temps de toutes les manières jusqu'à ce que le jour tombât. Alors elle se ficelait à la hâte et descendait aux provisions. Une fois dehors, elle recommençait à flâner aux devantures de magasins, à lire les affiches de théâtre, à promener son indolence, et elle rentrait toujours trop tard pour faire le dîner qu'elle improvisait. La seule chose qui la secoua un peu de sa torpeur, c'était un billet de spectacle pour le soir, car elle raffolait du théâtre. Le pauvre Lazoche adorait cette marmotte, et l'idée de l'avoir privée de son bain matinal, par exemple, l'épouvantait plus que la misère pour lui-même. D'ailleurs, un secret instinct l'avertissait que cette femme tenait plus au bien-être qu'à l'amour. Il sentait qu'elle ne réussirait pas au moindre changement dans ses habitudes et qu'elle avait la fainéantise dans le sang. Il avoua un jour à Saint-Onge, atterré, qu'il se félicitait de ne pas avoir d'enfant de sa femme, bien qu'il en eût désiré ardemment, tant il craignait que la maternité fût mortelle à ce tempérament de harem. Il fallait donc aviser et à trouver quelque autre métier. Confectionner de nouveau des venises de contrefaçon qui le rendaient complice d'un vol véritable, oh, il ne put s'y décider. Et selon le conseil de Saint-Onge, il tenta de l'orientalisme, mais aucun marchand ne voulut de ses chameaux, même sans signature. On les trouvait poliment trop personnels. Alors il fit des fleurs. Mais quelles fleurs, grand Dieu! Les plus indulgents les prenaient pour des feux d'artifice. Un marchand lui écrivait: « J'ai attentivement regardé le bouquet que vous m'avez envoyé. C'est sans doute le bouquet du 14 juillet que vous avez voulu représenter. » Croyez-en, monsieur, ma vieille expérience. Il est des choses que la peinture ne peut pas rendre. Les feux d'artifice et les feux de peloton sont de ce nombre. J'ai l'honneur de vous saluer. Enfin, le hasard vint en aide au déplorable Lazoche et lui fit découvrir à la fois sa voie artistique et la fortune. Un matin, on heurta à sa porte. Lazoche, qui n'attendait personne et auquel son concierge ne montait jamais ses lettres, hésita d'abord à ouvrir, craignant ce que les bohèmes appellent depuis Pyrrhus une tuile. « Monsieur Galois !» fit une voix timide. À ce nom bien connu, Lazoche jeta vite la couverture sur la baignoire où la paresseuse s'était révoltueusement et courut à la porte. « Quel honneur » fit-il pour dire quelque chose. À la vérité, Lazoche était inquiet de cette visite. Ce Galois n'était autre que le charcutier auquel depuis 15 jours il prenait sa galantine à crédit, car il était à bout de ressources. « L'honneur est pour moi, monsieur, » répliqua l'autre. « Mais je crois que je vous dérange, » ajouta le charcutier en rougissant jusqu'aux oreilles, car dans la buée d'eau chaude et de cigarettes, il venait d'apercevoir, comme coupé par la couverture, la tête de la baigneuse qui le regardait nonchalante. « Vous avez un modèle ?» « Non, » dit Lazoche, qui ne put s'empêcher de rire à l'idée de ce modèle, posant dans une baignoire. « Non, c'est ma femme que je vous présente. » Le charcutier rougit plus fort, ne sachant s'il fallait saluer ou se voiler les yeux. Et, pour se donner une contenance, il se retourna vers une des toiles accrochées à la muraille. « Oh, monsieur, on n'a pas besoin de demander si c'est Venise. » « Quel joli endroit tout de même! Vous y êtes allé ?»« Moi, non, » fit Lazoche, « mais j'ai un parent qui a demeuré 6 semaines, c'est tout comme. »« Mais assurément, » dit Galois, « mais voici ce qui m'amène. » Et il tira le peintre par la manche jusqu'à la fenêtre. « Je veux être père, monsieur Lazoche, et... Madame Galois désirait avoir un bel enfant. C'est le premier après 10 ans de mariage. Mais un bel enfant, vous entendez? Et il n'a tenu qu'à vous, monsieur Galois. Sans doute, cependant, tout en me ressemblant comme il convient. Et ce que je désire, naturellement, nous voudrions qu'il eût quelque chose de mieux encore. Ah, monsieur Lazoche, il y en a de si jolis au parc Monceau, de ses poupons gros et gras. Vous êtes artiste, vous savez ce que je veux dire. Mais pas trop jusqu'à présent, dit le peintre qui roula une cigarette. Tenez, si par exemple vous vouliez me peindre un de ces marmots dont je vous parle, avec de bonnes joues rebondies, des cheveux frisés et des yeux grands comme ça, qui vous regardent, vous le pouvez avec votre talent. Mais j'irai bien jusqu'à 100 francs, monsieur Lazoche. Mais quel usage! C'est bien simple. Je pendrai dans votre chambre de sorte que madame Gallois l'aurait sans cesse devant les yeux. Elle finirait par se pénétrer de cette image. Et au jour attendu, nous aurions un bel enfant, monsieur Lazoche. Ça se fait donc, ces choses-là? Hurla le peintre en regardant le charcutier avec ébahissement. Mais c'est infaillible, mon cher monsieur. Ma mère vous le dirait, quoiqu'elle ne fût qu'une paysanne, si elle était encore de ce monde. Mon cher monsieur Gallois, l'idée est excellente, elle me plaît beaucoup. Elle est faite pour plaire à tous les artistes. Mais causons. D'abord, de quel sexe voulez-vous cet idéal? Car si vous avez une petite fille, songez combien il est regrettable qu'elle naquît avec une tête de garçon, et vice-versa. « Mais il n'y avait pas réfléchi, dit le charcutier. Moi, d'abord, j'aimerais mieux une fille. Et madame Gallois, un garçon, c'est tout naturel, reprit Lazoche, qui voyait s'ouvrir devant lui toute une industrie nouvelle. Cela peut s'arranger. Mais, fille ou garçon, sera-t-il blond, sera-t-elle brune? Il faut bien nous entendre. Moi, je la voudrais brune. Alors, madame Gallois, je veux blond, évidemment. Mais je ferai châtain, monsieur Gallois. Et la nature choisira. Allez, comptez sur moi. Vous aurez votre idéal après-demain. Et il prit congé du charcutier. Dès que celui-ci fut au bas de l'escalier, Lazoche piqua une tête et se mit à danser sur ses mains avec tous les signes d'un enthousiasme évident. Puis il prit une belle toile blanche et l'installa sur son chevalet. « Je vous rebondis, songeait-il, cheveux frisés et de grands yeux qui vous regardent. Telles sont les données. C'est l'idéal de ce charcutier. Essayons. » Et il commença à tracer un grand cercle. Il dessina deux petits cercles parallèles et un autre plus petit sous ces deux-là. Ayant rempli les uns de bleu et les autres de rouge, il vit que cela était déjà bien et représentait un miracle le visage, les yeux et la bouche de l'idéal. Alors il continua de travailler dans ce sens et quand il eut parachevé ce chérubin, il s'en fut le porter à son charcutier. « C'est surprenant, lui dit Gallois, et même je reconnais quelques traits de ma propre physionomie. Mais je m'en suis inspiré, salua le peintre. Voilà vos 100 francs, monsieur Lazoche. » Madame Gallois restait confondue d'admiration. Il était facile de constater que ses yeux étaient déjà pris par cette pleine lune, et que le charme opérait. Cependant, elle émit une observation. « N'auriez-vous pas pu, dit-elle, y ajouter quelques ornements, un ruban ou une fleur, par exemple, ou même lui mettre une main tenant un hochet ?»« J'y avais pensé, madame, mais j'ai craint que fleur ou hochet, l'ornement ne se reproduisît à quelque place imprévue, sur le corps du nouveau-né. Ce sont là d'ailleurs des détails supplémentaires qui doivent être l'objet de commandes à part et qu'on ne peut prendre sur soi à entreprendre sans un désir formel et réitéré de la famille. La chance voulut que l'enfant de la charcutière ressemblât épouvantablement à cette boule enluminée. L'événement fit du bruit au terme. Les commères en parlèrent, et il vint d'autres commandes à la Zoche. Aussi multiplia-t-il ses idéaux. Il en fit pour tous les corps de métier, pour tous les goûts. Son atelier était rempli de têtes d'enfants, rondes, ovales ou carrées, rouges ou pâles, graves ou souriantes, expressives ou neutres. Il en avait un choix inépuisable pour boulanger, boucher, herboriste, papetier, rentier ou militaire retraité, pour tous les états. Il en inonda le quartier et il y gagna beaucoup d'argent. Tous les enfants faits au terme à cette époque ont été parfaits sur ces modèles. Aussi, au dîner des places aux jeunes, Saint-Onge proposa-t-il de rayer la Zoge de la liste des membres honoraires et de le reléguer dans la catégorie des membres arrivés. La Zoge n'a pas eu de postérité.